pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
C'est un déjeuner du dimanche, un repas de famille, un rendez-vous entre copains, un café avec des collègues, une balade en forêt, un pique-nique dans un parc, un apéro au soleil, un after ou une before, une soirée d'anniversaire, un pot de départ, une crémaillère, un rhum au bar Ourcq, un brunch de filles. En ce mois d'avril 2017, la conversation tourne à peu près autour d'un sujet unique. À la cantine de Radio France, hier à midi, pour ne prendre qu'un exemple, on entendait les noms des candidats siffler d'une table à l'autre, les invectives fusées, le ton monté, avec un brin de lassitude aussi. Tout le monde parlait de la même chose. Jamais, semble-t-il, on a autant évoqué la politique en France, hésité, changé d'avis, balancé de l'un à l'autre, défendu des idées auxquelles on croit à moitié, soutenu un candidat par calcul, contre un autre, pour ses idées malgré la personne, songer à s'abstenir et puis revenir sur ses positions de départ ou essayer de convaincre, de défendre mordicus, une position ferme et arrêtée depuis le début. Nous sommes aujourd'hui dans l'une de ces situations. 7 copains, des jeunes ensemble, 2 filles et 5 garçons, tous se connaissent depuis leur lycée privé à Saint-Germain-en-Laye, sauf 2 amis récents, si on peut dire, qui ne se fréquentent que depuis leurs études dans une école de commerce. Grégory, Sophie, Perrine, Julien, Claude, Timothée et Alexandre déjeunent ce jour-là, place de la Porte de Passy, juste au-dessus du métro Ranelagh, dans le 16e arrondissement à Paris. Ici, les trottoirs sont très larges. Ils ont beaucoup impressionné Pauline Mocor, qui est l'auteur de ce reportage, Les trottoirs. Les vieux arbres qui les séparent, majestueux, le fait qu'ils soient si grands qu'on puisse y faire du vélo, la partie sablonneuse qui sépare les deux versants des trottoirs. En entrant dans l'immeuble, un tapis rouge se déroule et au bout, on découvre une statue en marbre, en mode Vénus de Milo, a continué Pauline. À l'interphone, au lieu de sonner sur un nom, on sonne sur un étage. Normal, les gens occupent tout l'étage. Nous sommes donc au 4e, l'appartement est vaste, il y a une terrasse, un couloir, style galerie des glaces. Tous arrivent vers midi et parlent à bâton rompu, perplexe et pas militant pour un sou, jusqu'à 15h30, des élections présidentielles imminentes, tellement imminentes que pour des raisons de répartition du temps de parole des soutiens, nous avons quelque peu brouillé les pistes et les noms des candidats. C'est un reportage de Pauline Mocor réalisé par Emmanuel Geoffroy, jusqu'à 14h, dans Les Pieds sur Terre, sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Ouais,
yeah.
Salut.
Ça va?
Enfin.
Ouais.
Ouais, t'es à la
salut. Salut, Sophie.
Claude.
Bonjour.
La bienvenue. Hein.
Non, c'est sympa chez toi, Craig.
Ouais.
Bonjour. Moi, j'ai amené une bouteille.
Ça manquait.
Je vais commencer à faire réchauffer l'entrée. Je vais mettre le set là au four.
Ouais.
Je fais le four déjà.
Alors, je vous propose un velouté de chou-fleur et des lasagnes au saumon, chèvre et poireaux. Alors, je m'appelle Grégory, j'ai 36 ans. Dans la vie, je suis comptable dans le domaine médical. Et donc, ce midi, j'ai invité quelques amis avec qui on discute régulièrement politique, juste avant ces élections, pour faire un petit point tous ensemble. Alors, le noyau dur de ces amis présents ce midi sont des copains de lycée, donc des amis de 20 ans. On n'a pas de gêne, on se connaît parfaitement, donc on peut aborder tous les sujets. Ce qui va se passer notamment sur ces élections, pour moi, c'est fondamental sur mes choix futurs. Est-ce que je reste ici? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que... Si vous voulez, aujourd'hui, j'ai la sensation que dans ma position de classe moyenne, je contribue beaucoup au bien-être de mon pays. Et moi, je pressens que si on fait rien, les années futures vont être terribles. Et je pressens donc que je serai vraiment mis à contribution. Et pour moi, c'est pas le modèle me convient pas. Ce sera peut-être à moi de changer de modèle et à partir. Je pense au Canada, notamment. C'est un pays où j'ai fini mes études et où je me sentais très bien. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, on marche sur la tête. J'attends de ces élections un choix fort. C'est-à-dire... passer des réformes qui ne soient pas forcément appréciées du grand public, Mais dépasser quand même, c'est dépenser moins, c'est être plus rigoureux sur toute la dépense publique. On est en train de payer juste l'intérêt des bêtises passées. Tout ce que je donne en impôts ne sert finalement qu'à payer l'intérêt des bêtises et des dérives passées. Ça, je pense que à terme, ça va exploser. Donc j'ai eu un dégoût de la politique après Nicolas Sarkozy. En 2012, au premier tour, j'ai voté Vajoli, parce que je voulais plus voter pour un parti, j'ai préféré voter pour une idée qui me tenait à cœur. Et au second tour, François Hollande, Nicolas Sarkozy, c'était quand même terrible. Alors, il fallait voter contre quelqu'un, comme tout le monde a fait. Et moi, j'ai plutôt voté contre François Hollande, que je ne voyais pas du tout en tant que président. Enfin, depuis, je vote blanc. Et puis, j'ai été séduit par le programme de François Hollande. Je me suis dit, allez, on tente cette fois-ci, en me disant que s'il n'est pas élu ou s'il ne fait pas ce qu'il dit, ben, il faudrait que je prenne une décision, peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans. Parce que si on ne fait rien, aux prochaines ou aux suivantes, je pense qu'on sera soit en banqueroute, soit on aura le Front National au pouvoir, soit les deux. J'ai pas tellement envie de vivre ça.
Bon appétit.
Merci Greg pour ce bon repas.
Bon, ça, c'est la recette de maman, de velouté de chou-fleur de maman. Ouais.
C'est très bon. Mmh.
T'as mis combien de chou-fleur ?
Deux. Plein de vitamines pour
nous. Non, je sais. Ah, ben, elles sont les candidats, on n'est pas d'accord. Moi, Greg veut voter Fillon.
Vas-y, développe, moi, je vais pas me servir.
Mais même dans le nom, quoi, Fillon. Quoi. Donc voilà, non, on n'est pas d'accord sur nos candidats. Je sais pas ce que vous allez voter d'ailleurs.
Est-ce que tu veux voter quoi en fait ?
Ah, moi je veux voter le bordel, je veux voter Mélenchon. Parce que j'ai envie de sortir de cette république et de ce fonctionnement en fait. J'ai envie qu'on tombe plus bas que terre avec Mélenchon ou Le Pen, si vous voulez.
C'est se défoncer plein derrière, se dire qu'on va remonter. C'est juste
exactement.
Oui, mais
exactement,
c'est
exactement ça. Logique, parce qu'il n'y a aucune promesse que ça aille mieux.
Mais parce que Fillon,
mais
il promet quoi là ?
Toi, tu crois encore aux promesses de.
Tu crois encore à
finalement,
ça.
Le Pen, quand elle dit UMPS, moi je suis complètement d'accord. C'est les mêmes, ils ont tous été à l'école ensemble.
Le Pen, moi je ne crois plus à ces gens-là. Enfin,
non, voilà, c'est sûr. Il n'y a rien à croire. De toute façon,
Fillon, il est blindé là.
Mélenchon aussi. Hein. Parce que sur l'image d'anarchiste, quand même, elle est seulement marketing pour moi. Parce qu'on est quand même. C'était le plus jeune sénateur. Hein, ça fait un petit moment qu'il mange sur la bête, l'ami Mélenchon. Et puis son patrimoine est pas mal. Ce qui ne l'empêche pas de défendre les ouvriers, c'est pas le sujet. Mais maintenant. Pour moi, le mouvement anarchiste, il est plus marketing que réel.
C'est pas incompatible d'avoir de l'argent et être d'extrême gauche, en fait. C'est pas incompatible.
Pour moi, tous ces partis populistes qui soient de droite ou de gauche sont extrêmement dangereux. Après, je comprends qu'on soit énervé. Je comprends le discours de Julien. Je comprends qu'on a envie de tout casser. Mais pour moi, je crois qu'on mesure pas les conséquences de ce que ça peut produire.
Ça nous entraînerait dans une catastrophe. Ouais, le populisme de Mélenchon, c'est le même que celui de Marine Le Pen. En termes de populisme. Non, mais non, on reste avec des gens nouveaux. Des gens nouveaux. Moi, je pense que des gens nouveaux.
Ils ont la même ligne de fond, ils ont eu les mêmes cours, ils ont eu les mêmes profs, ils ont eu la même éducation, ils ont le même environnement.
Nous, on a eu la même éducation. Regarde, je prends l'exemple entre Alexandre, Timothée, Greg et moi. On a eu tous les mêmes cours, on est tous allés à la même école, lycée, collège, dans les mêmes environnements, dans le même milieu social, et on est tous bien différents. Après, voilà, peut-être qu'on sera déçus.
Pas Macron.
Alors, c'est un pote de tous les PDG du CAC 40. C'est
où est le problème ?
Le problème, c'est qu'avant, ils devaient se plier au syndicat et tout ça, et que maintenant, ils appelleront directement le président en direct, mon PDG, et dire ah bah écoute, là ça me fait chier ta loi de merde, là. Est-ce que tu peux me la modifier,
oui,
là ?
Mais ce sera pareil avec Mélenchon. Et les mecs, ils appelleront Mélenchon, ta loi, mais si, bien sûr que si.
Bah,
c'est comme
lobbies,
ça.
Il y a des lobbies.
Mais le lobby, ils sont partout.
Oui, mais Mélenchon, il n'acceptera pas.
Non,
alors que l'autre, parce que voilà,
il n'acceptera pas non plus.
Non, je ne crois pas, chérie, je crois pas que Mélenchon soit au-dessus de la mêlée à ce point-là. Comme dit Greg, il est là, il est sénateur ou je sais pas quoi depuis des décennies. Il est à 10 000 par mois, le mec.
Oui, voilà.
Pas déconner.
Il est élu depuis je sais pas combien de temps, Mélenchon.
Et justement, sur le thème de l'expérience, tu vas me dire ce que t'en penses. De ce que j'ai vu, là, du débat, j'ai trouvé hyper consensuel, plus affable que La Fontaine, l'ami Macron. Et ce qui m'inquiète, c'est de me dire que ce gars-là qui va être élu va devoir traiter avec des gens comme Poutine, Erdogan, Trump. C'est lui qui va nous représenter ? J'ai vraiment un gros doute, un énorme doute. Sur sa personne, là, pour le coup. Sur sa capacité à représenter nos intérêts et ses idées, celles pour lesquelles on va voter de gré ou de force.
La réponse est qu'on n'en sait rien.
C'est le tien, je crois. voilà.
Julien Bernat, 34 ans dans deux semaines. Je me suis marié en août l'année dernière avec ma femme Sophie. Et je suis conseiller professionnel à la Société Générale, à la Porte de Saint-Cloud. C'est suivre nos clients pros, alors des TPE, des très petites entreprises, soit SAS, SARL, profession libérale, avocat, médecin. C'est des gens qui font jusqu'à 1 million, 1,5 million de chiffre d'affaires. Et donc, je fais la gestion courante, j'ouvre les comptes pros, je leur fais de la prévoyance, l'épargne. Greg, on fête nos 13 ans d'amitié, on s'est rencontrés en école de commerce. C'est mon meilleur ami. Et les autres, ce sont les amis de Greg que je connais depuis, pareil, 13 ans. Mais voilà, je suis pas dans leur groupe d'amis. Socialement, on n'est pas du même milieu, voilà. Ils se connaissent tous depuis les Yvelines, depuis le 78, des villes comme Bougival, Marly-le-Roi, Saint-Germain-en-Laye, qui est un peu le prolongement du lieu où on est aujourd'hui dans le 16e. Voilà, c'est très bourgeois, très aristo. Ça se sent que... Bah, que ça vote à droite, qu'ils sont capitalistes, qu'ils n'ont pas envie de répartir les richesses forcément, que ça se mérite, qu'il faut se donner les moyens, qu'il faut aller bosser, machin. Mais dans les faits, ce qu'ils disent pas, c'est qu'ils ont un terreau hyper favorable, avec un carnet d'adresses fourni, avec des parents derrière, avec du relationnel énorme, avec du piston à droite à gauche. Et quand bien même, en face, vous avez quelqu'un qui a la même tête aussi bien faite qu'eux, et qui habite à Aulnay-sous-Bois, bah lui, le pauvre, il aura pas accès à tout ça. Donc il y a un moment donné où le discours me dérange en disant c'est bon, quoi, ce n'est pas que votre cerveau, ce n'est pas que votre capacité de travail, ce n'est pas que vos études. Il y a un moment donné, vous avez aussi baigné dans un milieu qui est très favorable à la réussite. Aujourd'hui, quand moi je dis que je vote non et que ça leur fait peur, c'est normal. Ce sont des familles patrimoniales qui ont beaucoup de pierres ou des fonds en banque. Et voilà, eux, ils auraient tout à perdre à ce que le gouvernement tombe et tout ça. Donc je veux voter pour une 6e République, pour qu'on arrête cette alternance depuis 40 ans qui ne sert à rien et qui nous précipite un peu plus chaque jour dans le mur. Quoi.
Alors nous allons servir ce plat de lasagne que j'ai fait avec beaucoup d'amitié et même beaucoup d'amour pour vous les enfants.
Merci.
Merci. Je vous en prie. C'est peut-être un peu costaud, je sais pas.
C'est super bon, Greg.
C'est très bon, parce qu'il y a des
Oui.
Non, ce qui est triste sur les 11 candidats, c'est qu'il n'y a pas de solution de toute manière.
Oui, c'est sûr.
Et chacun essaie de trouver sa stratégie pour sauver les meubles. C'est tout ça que je comprends et que j'entends. Quoi.
Moi je pense qu'on vote par son statut social, voilà. Je suis riche, je suis pauvre, je suis fonctionnaire, je suis voilà. Et on veut, voilà, qui est le candidat qui va améliorer mon existence. Et le problème, c'est que tout le monde a toujours été trompé, que ce soit Mitterrand 80-88, que ce soit Chirac deux fois, que ce soit Hollande, tout le monde en est revenu. Voilà. Donc là, on est à un stade où, après 30 ans de vie politique, on est dans un contexte quand même de crise qui est énorme, avec un taux de chômage élevé, avec des gens de plus en plus pauvres, avec voilà, une France divisée, avec des Français qui gagnent de l'argent et qui sont dans l'industrie, qui quittent le pays parce que pour toutes raisons qui sont fiscales, financières, et voilà. Donc voilà, moi j'ai tendance à dire, allons pas vers les extrêmes, mais essayons qui est là pour rassembler. Alors après, tout le monde pourra sauter sur... le candidat, et tout, à juste titre, sur plein d'arguments qui sont tout à fait valables, mais au moins se dire je vais essayer d'avoir quelqu'un qui va me dire moi je m'en fous d'où tu viens, t'es dans mon équipe, allez on va bosser, et je m'en fous que tu sois communiste, socialiste, ancien chiraquien, vert, écolo, machin. Alors ça, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Ça peut complètement exploser et ne pas marcher. Et j'en suis tout à fait conscient.
J'y crois. Est-ce que tu y crois ?
J'y crois. Oui, je me dis, j'ai envie d'y croire. Voilà, c'est pas j'y crois, mais j'ai envie d'y croire en me disant, eh ben, essayons. Voilà.
Je souhaite profondément que tu y restes. Tu dis qu'il peut gouverner avec un spectre politique très large. Et quand on regarde là, les 5 dernières années, juste le spectre du gouvernement socialiste, entre Valls et Hamon, si on réduit aux personnes,
ils ont déjà eu beaucoup de mal à se mettre d'accord et à gouverner
parce
ensemble.
Parce
qu'il y avait des prudents. Et là, tu es en train de me dire qu'en allant de Robert Hue à, je sais pas, oui, Fillon ou Le Pen, à Madeleine,
parce bah, que, alors, la
ils vont réussir à se mettre d'accord et à faire un gouvernement qui est cohérent.
Normalement, logiquement, les Français élisent. Les législatives sont un mois et demi après. Voilà, il n'y a aucun intérêt. Et en plus, on renouvelle.
Combien même les législatives détermine une large majorité pour vraiment. On aura des gens quand même de tous azimuts et qui vont devoir gouverner ensemble. Donc il y aura une majorité, mais à l'intérieur de cette majorité, je vois pas comment ça peut fonctionner. Moi, ce que je pense, c'est que ce qui va se passer, c'est qu'il va rien se passer. Un peu comme Hollande. Là, on est à 40% de partis populistes en 2017. On aura quoi en 2022
Dans le contexte actuel où on voit qu'il y a une montée des populismes, et à juste titre, parce qu'il y a une colère qui monte de tout le monde, si jamais on avait un deuxième tour avec l'effondrement de Macron, Fillon, Mélenchon qui monte incroyable, et on se retrouvait avec Mélenchon, Marine Le Pen au deuxième tour.
Ouais, c'est costaud, là.
Voilà. Et c'est le truc où on se dit, là, c'est révolution d'un candidat, et l'autre, je casse tout. Enfin, les deux veulent tout casser.
Le Che contre Hitler, voilà. Quoi. C'est pas, quoi.
Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour la France? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et moi, je trouve que ces deux candidats divisent beaucoup dans leur...
avec Mélenchon,
leur...
il divise.
Ah, oui. Il divise à fond. Mélenchon, il dit, je taxerai à 100% tous les gens qui gagnent plus de 40 ou 45 000 euros par an.
À 100%?
À 100%. Mais oui, mais je sais. Mais je veux dire, il a dit, si, à 100% au-dessus d'un niveau. Imaginons tous les chefs d'entreprise, et il y en a qui sont, pas des PDG, on parle juste des petits entrepreneurs, des types qui sont dans les start-up, etc., qui font la...
Qui triment, quoi.
Ouais.
Je suis pour ça. Ça sert à quoi de gagner 10 millions d'euros par an, dis-moi.
On est d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est que ça fait fuir la moitié de la
France, pas
la
moitié.
Non, mais ça nuit à la compétitivité de plafonner.
Voilà. Non, mais tu plafonnes à un montant qui est correct. Oui, mais
tu auras une fuite des cerveaux.
C'est capitaliste qui divise. Tu auras toujours, du coup, les très riches et les très pauvres. Pour moi, c'est ça.
Les très pauvres.
Pour moi, il faut la liberté. La liberté d'entreprendre, la liberté de réussir et la possibilité de beaucoup réussir.
Du coup, la liberté, t'as la liberté d'aider ou de ne pas aider. Je pense que ces gens-là, ils prendront la liberté de ne pas aider.
Ouais, tant pis.
Donc, je m'appelle Sophie, je vais avoir 36 ans en septembre, mariée, j'habite donc Paris 15e. Il y a 2 ans, j'ai créé ma propre société de conseil, formation et coaching bancaire. Et ça marche plutôt très bien. Et auparavant, j'ai 12 années d'expérience dans le réseau bancaire. Donc j'ai été conseillère en gestion de patrimoine, conseillère en gestion de fortune et directrice d'une agence bancaire. Donc tout ça dans Paris, pour 2 grands établissements bancaires différents. Et justement, d'avoir géré des gens qui avaient beaucoup d'argent, ça m'a complètement dégoûtée. J'ai pas envie du tout d'avoir beaucoup d'argent, vraiment. Je pense qu'il faut en avoir assez pour emmener sa famille en vacances, de faire ses plaisirs. Moi, je suis plutôt à me faire des petits plaisirs qui coûtent pas cher. Je suis plutôt gauche, je suis plutôt pour le partage, ce qui est bizarre pour normalement une chef d'entreprise. Moi, j'ai envie que tout le système pète, en fait. Puisque finalement, je ne me reconnais dans aucun parti spécifiquement. Moi, d'ailleurs, je ne suis même pas pour qu'il y ait un président. Je serais plutôt pour qu'il y ait un conseil de sages, que les gens ne soient pas payés pour faire ça, qu'on fasse ça par passion pour son pays, qu'il y ait un conseil avec un maçon, un dirigeant d'entreprise, un avocat, un médecin, un agriculteur, que toute la population française soit représentée finalement en politique et que... Justement, on laisse faire les gens qui ont de l'expérience dans chaque secteur trouver des solutions. Pour moi, les solutions ne viennent pas d'en haut pour redescendre en bas. Les solutions viennent d'en bas pour ensuite être votées en haut.
Du coup, je suis pas sûr que ça donne grand chose.
Vous faites
avec
le blanc.
Ouais, tant pis. Voilà. Alors,
moi, je trouve ça très bien de partager. C'est-à-dire, moi, j'ai la chance de gagner plus, du coup, je paye plus d'impôts. Je trouve ça très bien.
Ouais.
Mais par contre, c'est cet argent-là, donc qu'est-ce qu'on en fait?
Je pense que c'est ça. Entièrement d'accord. Moi, je veux pas finalement. En fait, là, si on me donnait le choix, déjà, moi, c'est voix de blanc parce que rien ne me convient. Moi, je veux tout refaire. C'est rien qu'il y ait un homme qui décide de ce qu'on fait de l'argent de tout le monde.
Je suis d'accord. L'argent est fort mal alloué. On est le pays le plus taxé au monde. On est le pays où l'éducation... On a le plus gros budget dans l'éducation nationale. On a des résultats déplorables. L'argent est mal alloué.
C'est primordial.
Donc, pour moi, trop d'État n'est pas une bonne idée. C'est ce que préconise Yves. C'est-à-dire... Moins de charges, c'est-à-dire moins faire peser...
Lui, il veut mettre moins de personnel pour l'éducation, alors qu'il y a déjà des classes où ils sont 45 gamins, c'est pas possible, alors, en fait.
Ça, là, on rentre dans un discours un peu...
En Suède, ils sont plutôt sur le format Montessori, ils sont 15 par classe.
Je veux supprimer 500 000 fonctionnaires, c'est un chiffre comme ça.
C'est les hauts fonctionnaires qu'il faut supprimer.
Il dit 500 000, ça c'est toi qui dis pas les bons, moi je sais pas. Ce que je dis, c'est que 500 000 fonctionnaires, c'est un chiffre comme ça, comme l'impôt à 75%. On est sur du marketing.
Ouais, exactement.
Clairement. Mais globalement, l'idée générale, c'est de dire qu'il faut peut-être faut faire des économies, et les économies passent par moins de dépenses publiques, moins de fonctionnaires.
Mais c'est les fonctionnaires qui gassent 15 000 ou 20 000, et crois-moi, j'en ai eu dans mon portefeuille client. Des clients fonctionnaires, hauts fonctionnaires à la retraite qui touchent 15 000. Donc je te laisse juger de ce qui touchait en activité, c'était 25 000 euros par mois. Moi, c'est ceux-là qu'il faut dégager et qui ne servent à rien. Qui, en plus, sont chez eux et qu'ils ne font rien du tout, en fait. Et c'est les petites mains en bas qui touchent 1 500 qui travaillent. Donc eux, il faut les garder, et les gros, là, tu me vires tout ça, là. Ça vient d'où, la crise de la dette? C'est l'État qui emprunte et qui rembourse pas ses dettes.
Ou pas, ouais.
Et pourquoi ça sera à nous de payer? Moi, vous voyez tous les gros là qui avaient été au gouvernement, là, c'est à vous de payer, en fait. Vous qui avez du patrimoine, en veux-tu, en voilà. De l'argent, en veux-tu, en voilà, sur vos comptes. C'est à vous de payer. C'est pas à moi, petit, qui ai toujours travaillé, de payer vos conneries parce que vous n'avez pas su gérer. Moi, quand je fais un prêt pour ma maison, je le rembourse. Bah, vous, quand vous faites un prêt pour l'État, si vous ne le remboursez pas, pourquoi ce sera à moi de payer? Si c'est aux petits de payer, on peut l'annuler. Si c'est aux gros...
Non, c'est à tout le monde. La dette, c'est l'État, et l'État, c'est tout le monde.
Dans les programmes, qui veut endetter la France et qui veut essayer de résorber la dette?
Parce que tu penses que la droite veut résorber.
Ton candidat, bon, je lui propose de remettre 150 milliards. 100 ou 150.
C'est irréalisable.
En fait, Sophie, je t'explique une chose. Selon moi...
Surendettement,
c'est existant. Voilà, justement, c'est ce que j'allais dire. Si la France... était un particulier, il serait pas loin d'être en dossier de surendettement. Et si la France est un État, c'est son cas, je pense qu'elle est pas très loin d'être sous tutelle du FMI. Et sous tutelle du FMI, je peux te dire que les fonctionnaires, ils vont dégager. Ce sera pas celui que tu veux qui fait 15 000, 20 000, ce sera tout le monde. On sera surchargé, on n'aura pas le choix. Et ce sera comme ça. Non. On partira pas de zéro.
Moi, je sais que je me relèverai toujours, en fait. Le changement ne me fait pas peur. Je pense que vous avez peur, en fait. Vous avez peur du changement.
Toi,
vous allez réessayer de faire les choses.
Moi, j'ai perdu. Je suis désolé, je vote parce que ma situation professionnelle est ce qu'elle est. Je gagne bien ma vie, j'habite à Paris, j'ai une femme et un gamin, je suis propriétaire d'un appart. Donc, je vote pour celui qui va me maintenir dans cette... tu vois. Donc, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Toutes les catégories qui sont plutôt aisées vont pas aller voter dans les extrêmes, ni chez Mélenchon, ni chez Marine Le Pen. Et après, on a nos propres idées, c'est-à-dire, voilà, est-ce que j'ai envie de redistribuer? Oui, d'aider ceux qui n'y arrivent pas et machin, oui. Donc tu vas pencher un petit peu plus à gauche. Et si tu dis, moi je suis plus sur la liberté d'entreprendre, de gagner plus d'argent, etc., tu pencheras un peu plus à droite. Mais après, ce que je dis,
c'est mettre les gens encore une fois dans les cases. Moi, la dernière fois, je vais chez l'ophtalmo, elle me dit, ah ben ça, en tant que dirigeant d'entreprise, vous allez voter Fillon. Bah, pas du tout. Pourquoi on met les gens dans des cases? Parce que je suis dirigeant d'entreprise, je vais voter à droite, pas du tout.
C'est pas mettre les gens dans les cases, c'est juste dire tu votes en fonction de ta condition sociale.
Forcément, justement, tu dis les dirigeants d'entreprise sont plus à droite.
Je vais jamais dire un ouvrier qui va aller voter Fillon, voilà, il y en aura. Oui, ça existe, mais c'est l'exception. C'est exceptionnel, c'est pas la norme. La norme, c'est pas ça.
Mais pourquoi une norme? Déjà, j'aime
mais
pas
la norme. La norme, c'est le constat. Le constat, ça, c'est pas ça.
Moi, je comprends pas ce que notre génération a à perdre. Ce que t'as à perdre réellement. T'as un appart, mais t'as un crédit dessus. T'as un peu de sous de côté, ok. Mais t'as quoi à perdre?
Si demain, c'est Mélenchon ou Marine Le Pen au pouvoir et que mon appart, il vaut 80 000 euros alors que je l'ai acheté.
Mais tous les apparts vont 80 000 euros.
Bah oui, mais moi, j'ai pas envie de tester ça.
Tu auras un appart quand même, tu seras pas obligé de le vendre.
Je peux pas.
et ça va pas durer éternellement. Peut-être qu'on va se relever. Enfin, tu vois, il y a pas de...
C'est ça.
Votre discours est intéressant, etc. Je le comprends. Mais je trouve qu'on est déjà assez bas. Donc on va pas non plus descendre plus bas, c'est-à-dire quoi, vouloir la guerre mondiale. Mais bien sûr,
finalement, s'en sortent mieux, hein, tu
non.
sais. Hein.
Non, ce qui est triste sur les 11 candidats, c'est qu'il n'y a pas de solution de toute manière. Il n'y a aucun candidat qui est parfait.
On est
d'accord. Personne à cette table, je pense, est excité par son vote.
Il n'y a pas de réelle solution, c'est ça. Encore une fois, on met des pansements. On évite la casse.
Bon, moi, je vais faire.
Moi je dois partir.
Ouais.
Moi aussi.
Tu veux que je te dépose ?
Ouais, je veux bien.
Non mais restez un peu. Hein ? Il y a le dessert, il y a le café, on est bien.
15 ans.
Non, ça va.
On n'est pas d'accord, mais on s'aime bien. Ouais.
On se revoit la semaine prochaine ?
Non, on se revoit jeudi. Jeudi, ouais. Ça marche, merci.
Mais non, 23 avril déjà, il y a un premier tour. Il y a un premier tour.
C'est ce qui va se passer.
Ouais, ouais. Bon, bah, faut quand même y aller.
Faut qu'on discute de tout ça la semaine prochaine parce que je pense que c'est pas bien mûr dans nos esprits encore.
Messieurs, je ne retire pas.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, un déjeuner de famille dans le 16e arrondissement, un reportage de Pauline Mocor réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Grégory, à Sophie, à Perrine, à Julien, à Claude, à Timothée et à Alexandre. Merci également à François, chez qui se déroulait ce déjeuner, et à Jeanne Boézek. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui attendent vos commentaires, vos likes et vos partages avec la plus grande impatience.